VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 14 janvier 2016, à la une ce soir.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, des attaques rebelles font 4 morts au sein des forces armées nationales.
Nous avons identifié 2 cadavres de l'ennemi et il y a des traces qui montrent que l'ennemi avait subi également des pertes.
Des pluies diluviennes font 6 morts à Makamba, dans le sud du Burundi.
Ouf de soulagement, l'épidémie d'Ebola ne sévit plus en Afrique de l'Ouest.
Les Camerounais réagissent à l'attaque d'une mosquée hier.
On n'avancera jamais en voulant faire des confrontations à chaque fois.
Si vous voyez les Nigériens qui passent autre, c'est les mêmes familles.
Fin du suspense pour les amateurs de loterie aux États-Unis. 3 personnes ont gagné le jackpot de plus d'1,5 milliard de dollars.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En République démocratique du Congo, 4 militaires des forces armées congolaises sont morts aujourd'hui après des attaques simultanées des rebelles ougandais ADF contre les positions de l'armée et des forces de la mission onusienne. Cela s'est passé à Opira, à environ 50 km au nord-est de Beni. Eddy Sango a joint sur place le porte-parole de l'opération de l'armée congolaise, le lieutenant Mac Azukai.
Nous avions enregistré 7 blessés graves dans nos rangs. Du côté de l'ennemi, nous avions ramassé 2 corps. Et comme vous le savez, l'ennemi qui est terroriste fait tout après chaque attaque pour amener les traces. Nous avons cette fois-ci au moins identifier 2 cadavres de l'ennemi. Il y a des traces qui montrent que l'ennemi avait subi également des pertes. Mais si on dans nos rangs, nous avons effectivement ce matin, nous déplorons le décès de 4 de ces militaires qui étaient grièvement blessés. Donc le bilan du civil provisoire est de 2 morts du côté ennemi. Nous serons encore ceux qui sont grièvement blessés. Nous avons déployé des patrouilles pour le rapissage et la suite du terrain.
Le lieutenant Mac Azukai est joint dans l'est de la RDC.
Inondation au Burundi, des pluies diluviennes font 6 morts dans la province de Makamba, dans le sud du pays. 26 maisons ont été détruites. La montée des eaux a également causé d'importantes destructions dans la capitale, dont un pont qui porte désormais des fissures. Ces inondations ont rendu difficiles les déplacements et l'accès à certains quartiers de Bujumbura.
L'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest s'est officiellement achevée ce jeudi avec l'annonce de l'arrêt de toutes les chaînes connues de transmission au Libéria comme dans l'ensemble de la région. On fait le point avec Nathalie Barge.
La communauté internationale a réagi avec soulagement et prudence à l'annonce par l'OMS de la fin de l'épidémie d'Ebola qui a touché la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria et le Mali. En 2 ans, elle aura gagné 10 pays dont l'Espagne et les États-Unis, provoquant officiellement 11 315 morts pour 28 637 cas recensés. Après la Sierra Leone et la Guinée, le Libéria a atteint ce jeudi son 42e jour, soit 2 fois la durée maximale d'incubation, sans nouveau cas depuis le second test négatif sur le dernier patient, annoncé l'OMS. Et à savoir notamment que le risque persiste car le virus subsiste dans certains liquides corporels de survivants, notamment le sperme, où il peut rester jusqu'à 9 mois, voire 1 an.
Nigeria, de nombreux parents des plus de 200 lycéennes enlevés par Boko Haram ont à nouveau réclamé leur libération aujourd'hui lors d'une rencontre avec le président Muhammadu Buhari qui a demandé plus de temps pour les retrouver. Les quelques 300 manifestants, dont plusieurs étaient en larmes, ont marché dans les rues d'Abuja avant d'être emmenés en bus à la présidence pour une audience avec le président Buhari.
Procès contre le vice-président kényan William Ruto. La défense appelle les juges de la Cour pénale internationale à abandonner les charges contre lui. Rappelons qu'il est poursuivi pour crimes contre l'humanité, meurtre, persécution et déportation durant les violences post-électorales de 2007-2008. Mais ses avocats estiment que le dossier de l'accusation est complètement vide et que les preuves sont clairement absentes.
C'est aujourd'hui le 5e anniversaire de la chute de Zine El Abidine Ben Ali en Tunisie. Le 14 janvier 2011, après un mois de manifestation, le dictateur qui dirigeait le pays depuis 23 ans avait pris la fuite vers l'Arabie Saoudite, marquant le début du printemps arabe. Des milliers de Tunisiens ont célébré leur révolution ce jeudi. La foule était dans la rue, dans une ambiance festive. L'occasion pour Amnesty International de dénoncer la répression brutale qui sévit de nouveau en Tunisie dans le cadre de la lutte antiterroriste. Cinq ans après, des réformes profondes se font attendre. Nous y consacrerons un dossier en seconde partie d'émission.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, attentat suicide en Indonésie. Des assaillants liés au groupe État islamique ont tué 2 civils par balle et détruit un café à Jakarta. Ils s'inspiraient des attaques de Paris. On fait le point avec Isha Sarai.
Le groupe État islamique a déjà revendiqué ces attaques. Une première explosion est survenue dans un café d'un quartier de Jakarta qui abrite des centres commerciaux et des bureaux de plusieurs ambassades et agences de l'ONU. Puis 2 assaillants armés de pistolets ont pris 2 otages dans le même quartier. Des témoins ont indiqué qu'ils étaient sortis d'un café et ont commencé à tirer sur des passants. Selon la police, 5 assaillants ont été abattus. Joko Widodo, président indonésien, a dénoncé ces attaques. D'après le Soufan Group, une firme spécialisée sur la sécurité, 500 à 700 Indonésiens ont rejoint les rangs du groupe État islamique. Ces attaques semblent confirmer les craintes que certains djihadistes reviennent dans le pays pour semer la terreur.
6 morts et 39 blessés. Tel est le bilan d'une attaque attribuée aux militants du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, dans le sud-est de la Turquie. Selon le bureau du gouverneur de la province de Diyarbakir, l'attaque visait un poste de police et la résidence des officiers et de leurs familles, qui a également été mitraillé.
Et toujours en Turquie, le gouvernement a annoncé avoir riposté à l'attentat suicide qui a tué 10 touristes allemands à Istanbul en bombardant en Syrie et en Irak des cibles du groupe État islamique. Nous lutterons d'une manière déterminée contre Daesh jusqu'à ce qu'elle quitte définitivement la frontière turque, a promis le Premier ministre Ahmet Davutoğlu.
Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, le prince Zeid Raed Al Hussein, a déclaré ce jeudi à Doha que toute partie qui affame les civils en Syrie sera coupable de crimes de guerre. Entre-temps, le comité international de la Croix-Rouge indique qu'un nouveau convoi humanitaire est arrivé dans 3 villes assiégées. Des véhicules du Croissant-Rouge syrien, de la Croix-Rouge et de l'ONU sont entrés cet après-midi dans Madaya, apportant du blé et des produits de toilette aux 42 000 résidents qui n'avaient rien reçu pendant 3 mois. Parallèlement, 17 camions ont pris la route de Foix et Kefraya, non loin de la Turquie. Les agences d'aide comptent faire une livraison de carburant dimanche dans ces 3 localités.
L'ambassade saoudienne dans la capitale irakienne, de nouveau ouverte après une absence de 25 ans. Riyad avait rompu ses liens diplomatiques avec Bagdad suite à l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990.
À Florence, en Italie, la police a arrêté un immigrant sénégalais soupçonné d'avoir tué une Américaine. Selon le procureur, des tests d'ADN ont impliqué Chertidiane Diao, 27 ans, dans la mort d'Ashley Olsen, 37 ans. Son corps a été découvert dans son appartement la semaine dernière. Fin du suspense, le Powerball, la loterie américaine, a des vainqueurs. Anastasie Tudiech.
Les chances de gagner étaient si minces que des experts ont calculé qu'il existait 246 fois plus de chances d'être frappé par la foudre. Et pourtant, la super cagnotte du Powerball, loterie bi-hebdomadaire américaine, a été remportée. Le montant record, près de 1,6 milliard de dollars, a mobilisé un nombre record de joueurs. Certains ayant même fait le déplacement depuis le Canada ou le Mexique voisin pour se procurer un ticket vendu 2 dollars l'unité. Le montant faramineux de la super cagnotte est dû à l'absence de numéros gagnants depuis le 4 novembre. Et dimanche, la cagnotte a passé le cap du milliard de dollars. Selon la chaîne NBC News, les 3 gagnants vivent respectivement en Californie, en Floride et dans le Tennessee. Ils vont toucher 528,8 millions de dollars chacun.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Arzuma Compaoré.
70 millions d'euros pour la campagne cotonnière au Burkina Faso. Ce prêt d'environ 46 milliards à la société de fibres et textiles Sofitex est d'ailleurs un renouvellement de celui accordé l'an dernier et devrait lui permettre d'atteindre son objectif de 580 000 tonnes de production en 2016. L'an dernier, la production nationale de coton était à 722 000 tonnes, dont 560 000 tonnes par la Sofitex. Le secteur cotonnier représente depuis 5 ans le deuxième produit d'exportation après l'or. La compagnie TAG Aeronautics ne commercialisera plus les avions d'affaires du groupe canadien Bombardier en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La société québécoise gérera désormais la vente de ses appareils dans cette région. Selon le président de Bombardier Avions d'affaires, David Coléal, le groupe veut se concentrer sur les canaux de vente directs et ainsi accroître les marges. Cette réorganisation de la distribution va toutefois coûter l'annulation de 24 commandes fermes d'une valeur de 1,75 milliard de dollars au prix affiché en 2015. Chute des exportations africaines vers la Chine. Selon les chiffres officiels de la douane chinoise, les importations de la Chine en provenance d'Afrique ont chuté de près de 40% en valeur l'an dernier. Une baisse qui s'explique en partie par le ralentissement de l'économie chinoise et la chute des prix des matières premières. Le président Xi Jinping avait dévoilé en décembre 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique, assurant que la Chine restait engagée à soutenir le développement du continent.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Arzouma.
Feu sur les stades, c'est l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors on commence en foot ce soir, le Real et l'Atlético interdits de transfert pendant un an.
Oui, la sanction qui frappe les deux clubs phares de la capitale espagnole résulte d'infractions sur le recours à des joueurs mineurs. La peine s'applique aux deux prochains mercato, c'est-à-dire l'été 2016 et janvier 2017. Mais les deux formations ont encore le droit d'effectuer des mouvements en ce mois de janvier 2016. L'Atlético puis le Real ont annoncé, il fallait s'y attendre, dans l'après-midi, qu'ils feraient appel.
Qui va enfin réformer l'IAAF ? Nous parlons d'athlétisme, bien sûr. Sera-ce le Britannique Sebastian Coe ?
Oui, le Britannique Sebastian Coe, président depuis août de la Fédération internationale d'athlétisme, est le mieux placé pour réformer cette institution secouée par un scandale de corruption et de dopage. C'est en tout cas ce que pense le patron de la commission d'enquête de l'AMA, l'Agence mondiale anti-dopage. Successeur du Sénégalais Lamine Diack, Coe a-t-il menti en assurant qu'il n'était pas au courant de l'ampleur du dopage dans l'athlétisme russe, objet de deux volets de ce rapport explosif? Si vous me posez la question, je vous dirai que non, il n'a pas menti, a répondu Pound. Lamine Diack est mis en examen par la justice française, soupçonné d'avoir fermé les yeux sur des cas de dopage russe moyennant finance lorsqu'il était à la tête de l'IAAF.
Et un nouvel entraîneur pour l'AS Rome.
Oui, l'Italien Luciano Spalletti, âgé de 56 ans, est le nouvel entraîneur de l'AS Rome, actuel cinquième du championnat d'Italie de football. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le club de la capitale italienne en remplacement du français Rudy Garcia, limogé la veille. Arrivé à Rome à la mi-journée en provenance des États-Unis, Luciano Spalletti a déjà pris les rênes de l'équipe en vue de la prochaine journée de Serie A contre Vérone, dimanche au Stadio Olimpico. C'est ce qu'a affirmé le club sur son site internet.
Et Bagassi, on va parler basket, les résultats de la NBA, le championnat nord-américain.
Bien, on commence par la côte ouest où les Golden State Warriors ont concédé leur troisième défaite de la saison à la surprise générale ce jeudi sur le parquet de Denver, 112 à 110. Victoire de Charlotte sur Atlanta, 107 à 84. Eh bien, Chérubin, Washington, qu'est-ce qui s'est passé? Washington qui gagne de justesse après...
Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, on les a vus la semaine passée avec quelques défaites là et on s'inquiétait un peu.
Non, Washington... avec Wall et Bill. Bill qui est revenu d'ailleurs de sa blessure. Il a beaucoup aidé l'équipe. Washington a pu gagner face à Milwaukee.
106 à 101 face à Milwaukee, oui. Et les New York Knicks, eux, sont tombés face aux Brooklyn Nets, 110 à 104. Indiana qui tombe aussi face à Boston, 103 à 94. Minnesota tombe face à Houston, 107 à 104. Et enfin, Dallas qui a été battu par Oklahoma City 108 à 89.
Merci, Begasi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Place maintenant au dossier du jour. Première escale, Morgane, le nord du Cameroun.
Et nous partons plus précisément dans le nord du pays. Les leaders politiques régionaux, la population à faire preuve, ils invitent la population à faire preuve de vigilance au lendemain de l'attaque contre la mosquée de Kouyapé. Un attentat suicide qui a fait 12 morts hier en pleine prière du matin. Boko Haram est de nouveau pointé du doigt. Un reportage de notre correspondant Moke Edwin Kinzeka est traduit par Maëlys Segel.
Depuis cet énième attentat, les forces politiques du pays sont en alerte. Midjiyawa Bakary, le gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, conseille aux musulmans d'être sur leur garde pour aider à prévenir ce genre d'attentat.
Nous demandons à la population de ne pas baisser la garde. Et nous demandons que le même travail abattu par le comité de vigilance en dehors des mosquées soit transféré au niveau des mosquées, qui est une sorte d'organisation pour sécuriser les fidèles. Et ceci, c'est une réflexion qui doit être menée, les conseils avec les chefs traditionnels, les leaders religieux, les autorités administratives. Le travail abattu par le comité de vigilance doit être transféré au niveau des mosquées. C'est possible de faire des petits regroupements ou des petites cellules d'éveil, de manière que si certains prient, d'autres veillent sur eux. Et une fois le premier groupe fini, que le deuxième prenne le relais pour prier. C'est possible. Et qu'on soit davantage plus vigilant pour savoir quels sont les visages nouveaux qui se présentent à nous.
La ville de Kolofata, juste à la frontière avec le Nigeria, a souvent été le théâtre d'attaques menées par Boko Haram. L'imam de la ville de Kolofata, Hamidou Mustapha, dit que demander à un musulman de ne pas prier avec d'autres n'est pas en accord avec les enseignements religieux. Mais cela peut être une option lorsqu'on est confronté au terrorisme.
Remettez le Coran à n'importe qui, vous lui demandez de lire pour mieux comprendre l'islam, ce n'est pas caché. Vivre ensemble ne se construit pas avec des rivalités. On n'avancera jamais en voulant faire des confrontations à chaque fois, mais on avancera plutôt à essayer de savoir davantage de la culture de l'autre et à respecter les différences que Dieu lui-même a laissées lors de la création.
Le général Kodji Jacob, un ancien commandant, a également appelé la population à collaborer avec le gouvernement en dénonçant tout étranger paraissant suspect.
À partir d'ici, vous voyez les Nigériens qui passent autres. C'est les mêmes familles, de part et d'autre de la frontière. Donc naturellement, on doit avoir les flux de population de part et d'autre. Maintenant, c'est justement le rôle de la gendarmerie. Quand il y a flux de population, c'est la gendarmerie qui sait identifier qui. Il faut filtrer pour qu'on ne reçoive pas les malfrats dans notre pays.
Depuis 6 ans, Boko Haram a mené des attaques au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Mais la coalition régionale a multiplié les raids contre les islamistes pour écraser leur insurrection.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Cap sur l'est de la République démocratique du Congo, la commission électorale consulte la société civile et la classe politique du nord et du sud Kivu. Le secrétaire rapporteur de cette institution est en tournée dans ces deux provinces pour recueillir les avis des électeurs et membres des partis politiques afin de voir comment sauver le processus électoral. Goma, Charlie Kasereka.
Et moi, c'est Bado Sechama Vaumartin. Nous, ce que nous pouvons lui recommander, c'est de respecter seulement la Constitution, que les gouvernements en place aient la volonté d'organiser et d'accompagner la CENI.
Je suis Georgette Chogolé-Matone. Je suis du PLD, un parti politique de l'opposition. Nous voulons juste savoir s'il y aura élection cette année ou pas.
Pour les C'est dans cette ambiance d'un jeu de questions-réponses que s'est tenu le débat entre CENI, Commission électorale nationale indépendante et certains cadres de la classe politique, ainsi que ceux de la société civile à Goma. La délégation du bureau de la CENI, venue de Kinshasa, reconnaît les difficultés qui entourent le processus électoral aujourd'hui en RDC, d'y venir recueillir les avis et propositions à la base. Le chef de la délégation, le secrétaire rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba, explique ici.
Doit-on faire une révision partielle ou totale? Doit-on respecter le calendrier avec ces 11 scrutins dans les temps qui nous restent? Ou allons-nous trouver les moyens financiers et logistiques pour l'exécution de ces calendriers et tant d'autres précisions?
Pour les présidents de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, il serait mieux que la CENI essaie d'analyser et qu'elle soit réaliste, mais aussi tenir compte des nouveaux majeurs qui ont aussi droit au vote. Gilles Hakizimwami, président de l'Assemblée provinciale au Nord Kivu.
Que la CENI essaie de s'asseoir d'examiner qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui n'est pas faisable. Par exemple, à la question de la révision du fichier électoral, tenant compte de l'inclusivité, les nouveaux majeurs doivent être également enrôlés. Que la CENI soit réaliste. Compte tenu de ce calendrier qui n'est plus applicable, nous avons demandé que ce calendrier soit réaménagé et mettre le gouvernement devant sa responsabilité.
La question reste, dis-moi, à savoir si les propositions et avis donnés dans ces débats seront prises en compte par cette institution d'accompagnement de la démocratie en RDC. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Aujourd'hui, plusieurs missions en Afrique sont qualifiées d'échecs alors que les allégations de viol se multiplient contre des casques bleus. Mais Hervé Latsou, le patron de ce département, est d'avis que beaucoup d'Africains ont retrouvé grâce aux Nations Unies la perspective d'une vie meilleure. Qu'en pensez-vous? Les missions de paix onusiennes ont-elles encore leur légitimité en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Quelques habitants de Niamey, la capitale nigérienne, se prononcent sur l'annonce faite par les autorités de l'implication de Ama Amadou, ancien président de l'Assemblée et candidat à l'élection présidentielle du 21 février, dans la tentative de coup d'État avorté de mi-décembre. Écoutons-les au micro de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
En tant que citoyen, je pense que c'est l'enquête, le ministre l'a dit, c'est au cours de l'enquête que son nom a été cité dans l'affaire et c'est la raison pour laquelle les enquêteurs sont partis l'écouter et c'est normal pour que l'enquête puisse se poursuivre, qu'on écoute tous ceux qui sont de près ou de loin supposés être impliqués dans l'affaire. Parce que même le ministre l'a dit, c'est, son nom a été cité, mais ça ne veut pas dire que quelque chose lui est reproché. Seulement, c'est l'enquête qui va le déterminer.
Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'on a en train de s'acharner contre sa personne?
Mais il n'y a pas d'acharnement. Quel acharnement? Pourquoi on va s'acharner sur lui? Il y a 15 candidats. Pourquoi?
Pensez donc parce que ce coup d'État, on veut l'impliquer dedans juste pour l'écart.
Mais pourquoi l'impliquer? Il a été cité et comme le ministre l'a dit, il y a 4 personnes qui ont reconnu les faits et qui ont même demandé la clémence du président. Et ils ont demandé pardon au peuple nigérien. Ça veut dire que c'est une affaire qui est réelle.
Ce qui prouve qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, que le régime ne cesse de créer des accusations à tort pour pouvoir uniquement empêcher Ama Amadou à se présenter aux élections présidentielles. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Ama est déjà dans une affaire dépendante à la justice, l'affaire des bébés importés. Une affaire qui n'a même pas pris fin. Et maintenant, on vient ajouter une affaire de coup d'État. Donc, ce que nous disons vraiment, que c'est une machination politique. Et elle vit tout simplement ce qui n'est pas vraiment une participation de Ama Amadou aux élections présidentielles.
Ça peut être vrai comme ça peut ne pas être vrai. Si tu es le cas, c'est désolant. L'ex-premier ministre et en tant que l'ex-président de l'Assemblée nationale, on a dépassé ce terme de coup d'État.
Vous croyez à cela, le fait qu'il soit impliqué dans le coup?
Mais oui. Pour quel intérêt? Les autres vont mentir. Je ne vois pas l'intérêt.
Ce n'est pas pour l'écarter de la course à la présidentielle?
Je ne pense pas.
Propos recueillis à Niamey par Abdulrazak Idrissa.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondjouchi.
La Tunisie marque aujourd'hui le 5e anniversaire de la chute du dictateur Zine El Abidine Ben Ali. Le 14 janvier 2011, après un mois de manifestation, l'homme qui tenait le pays d'une main de fer depuis 23 ans a pris la fuite vers l'Arabie Saoudite. Pour parler de cet anniversaire, John Lennon s'est entretenu avec Mourad Selami, journaliste et rédacteur en chef du Quotidien à Tunis.
Ben, il y a eu la manifestation officielle au palais présidentiel de Carthage en présence de M. Bejraï de Sepsi. Et il y a eu aussi des manifestations de rue, de chômeurs, de familles de martyrs, de l'UGTT, de la centrale syndicale UGTT. Il y a eu finalement beaucoup de manifestations qui rappelle bien sûr de ce cinquième anniversaire de la révolution.
Cinq ans après la chute et la fuite de Ben Ali en 2011, qu'est-ce qui a changé en Tunisie?
Ce qui a changé essentiellement, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression. C'est que les Tunisiens, désormais, peuvent discuter de tout, parler de tout sur les médias, sur les libertés démocratiques, etc. Mais sur le plan économique et social, on attend encore, la Tunisie peine à se redresser économiquement, donc surtout avec l'avènement du terrorisme.
Justement, le chômage, la pauvreté et l'exclusion sociale sont les mots qui, en 2011, ont provoqué la révolution. Mais ils sont toujours présents aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cela?
Ce qui explique, c'est que pour changer le mode de développement, ce n'est pas facile. C'est connu partout dans le monde. Pour changer un mode de développement, il faut des décennies. Mais surtout, avec l'avènement du terrorisme, l'instabilité, c'est normal qu'il n'y a pas d'investissement. Donc, du coup, il n'y a pas de création d'emplois, il n'y a pas de création de richesses. Donc, à la limite, je vais dire que ce n'est pas uniquement la faute des gouvernants, mais c'est toute une conjoncture internationale qui n'a pas favorisé l'explosion économique, socio-économique de cette révolution tunisienne.
La Tunisie est devenue l'une des cibles majeures des djihadistes. Est-ce que les choses seraient différentes si Ben Ali était encore au pouvoir?
Mais Ben Ali n'est pas au pouvoir. De façon, je peux répondre autrement à la question, c'est dire, est-ce qu'une main de fer aurait donné un meilleur résultat face au djihadisme? Je pense que le Tunisien espère toutefois garder sa liberté et nous allons combattre le djihadisme. De toute façon, nous sommes une cible du djihadisme, mais je pense que le djihadisme n'est pas passé en Tunisie. Il y a eu quelques actions pointées de djihadistes, c'est vrai, qui ont été très lourdes sur le plan de martyrs, mais je pense en gros la vie se poursuit normalement en Tunisie et loin de là, avoir gagné la démocratie, c'est déjà un bon acquis.
Mourad Selami, journaliste et rédacteur en chef au journal Le Quotidien à Tunis.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Présentation chez Ruben Orsil et Morgane Guiriec.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook où vos questions et commentaires sont les bienvenus. Vous pouvez aussi partager vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Onde Courte, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.